des gens que jamais qui en participent à leur façon.
Va arriver un moment où on pourra plus, ça c'est sûr. Et alors là, à force de jouer avec nos nerfs,
fragile les nerfs.
Et on en a beaucoup. Alors s'ils pètent tous à la fois, ça risque d'abîmer leur petite gueule. Ça va pas durer comme ça, moi je vous le dis. Si je vous dis maquis, qu'est-ce que vous me répondez?
Je dis stop.
Putain d'enculé de fasciste de merde.
Putain d'enculé de fasciste de merde.
Mais qu'est-ce que vous êtes venu foutre sur Terre, nom de Dieu? Vous n'avez pas honte d'exister?
Et vous, là, affreux. Je vous ignore, je vous chasse de ma mémoire. Je vous balais.
C'est l'agenda des luttes sur Fréquence Paris Pluriel, l'émission qui relaye les rendez-vous militants et culturels en Île-de-France. Une émission que vous retrouvez tous les jours du lundi au vendredi, de midi à 12h30. Si vous voulez nous envoyer des informations ou simplement nous joindre, vous pouvez nous écrire au 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris ou à l'adresse de l'émission agenda@rfpp.net. Vous pouvez aussi nous appeler au 01 40 05 03 70 ou au 01 40 05 06 10 pour intervenir en direct. Et pour écouter toutes les émissions ou avoir accès aux informations pratiques des événements dont on parle, rendez-vous sur le site de l'émission agenda.rfpp.net.
Salut à toutes et à tous, vous écoutez l'agenda de Fréquence Paris Pluriel, un agenda à deux voix avec Youssef qui est en stage à la radio. Et pour l'émission d'aujourd'hui, on sera au téléphone avec Barthi Nassera pour parler de la fermeture programmée des ludothèques à Saint-Denis. Mais d'abord, les infos et rendez-vous militants pour ce lundi 14 novembre. Et on commence avec cette pétition lancée par le collectif « Se loger n'est pas un crime » qui réunit de nombreuses organisations parmi lesquelles l'AITEC, l'ALDA, ATD Carmonde, l'Association des comités de défense des locataires, Attaque France, le COPAF, le droit au logement, Emmaüs France, Faire et Agir, la Fondation Abbé Pierre, la Fédération de Paris du MRAP, Femmes Égalité, la France Nature Environnement, le GISTI, la Cloche, la Ligue des droits de l'homme, les enfants du canal ou encore SOS Hébergement, Tout à l'abri, Utopia 56, l'Union syndicale solidaire, la CGT, le syndicat de la magistrature et le SNPES-PJJ. Alors que des centres d'hébergement sur Paris ferment, que ces mêmes centres d'hébergement rentrent de plus en plus dans des logiques gestionnaires, que les foyers migrants sous couvert de rénovation sont privatisés, voient leur loyer augmenter et une partie de leurs résidents expulsés et que la politique d'invisibilisation de la paupérisation de la région parisienne est en cours depuis l'attribution des JO de Paris 2024, les députés du groupe Renaissance ont déposé une proposition de loi d'une grande brutalité à l'égard des personnes sans domicile qui squattent en état de nécessité, un logement vacant, mais aussi des locataires qui ont une dette de loyer ou qui sont menacés d'expulsion. D'une part, elle prévoit de condamner à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende les personnes et familles sans abri qui occupent un logement vide de tout meuble pour se protéger de la rue. Elle permet en outre de les expulser sur décision du préfet en quelques jours et sans jugement alors que 3,1 millions de logements sont vacants et qu'aucune action publique n'est mise en œuvre pour en diminuer le nombre. D'autre part, le locataire convoqué au tribunal pour une dette de loyer sera sanctionné par la résiliation automatique de son bail et son expulsion prononcée, même s'il réussit à régler sa dette de loyer par la suite. Rappelons qu'à l'heure actuelle, pour éviter la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le juge peut lui accorder un échéancier pour rembourser l'impayé de loyer. S'il le respecte, son bail se poursuit et il n'est pas expulsé. Enfin, outre une réduction drastique des délais de procédure, la proposition de loi prévoit que si le locataire expulsé ne se met pas de lui-même à la rue, il devient un délinquant et il risque ainsi 6 mois de prison et 7500 euros d'amende après interpellation, comparution immédiate et condamnation. C'est donc le choix entre la rue où l'on meurt à l'âge moyen de 48 ans ou la prison pour celui ou celle qui refusera de quitter son logement afin de protéger sa famille. Ces députés préfèrent lutter contre celles et ceux qui ne peuvent se loger ou honorer leur loyer faute de logements sociaux en nombre suffisant et de loyers abordables, tandis que les APL sont rognées et que les lois protégeant les locataires, les personnes mal logées et les sans logis sont bafouées. C'est plus facile et plus rentable de réprimer les squatteurs et les locataires en difficulté que d'agir enfin contre la crise du logement. Cette proposition de loi va encore aggraver la crise du logement tandis que le nombre de sans-abri ne cesse de progresser et que l'inflation fragilise les locataires déjà confrontés à la cherté des loyers et à la hausse des charges. Et alors que cette proposition de loi doit être débattue à l'Assemblée nationale à partir du 28 novembre prochain, le collectif « Se loger n'est pas un crime » lance donc cette pétition pour protester contre ce projet de loi qui prévoit donc de criminaliser les squatteurs par nécessité de logement vide. Et si vous voulez la signer, rendez-vous sur le lien que vous trouverez sur le site de l'agenda. Depuis 11h ce matin, la coopérative de chômeurs et chômeuses tient son assemblée hebdomadaire de chômeurs et chômeuses. La coopérative a choisi le terme d'assemblée de chômeurs et chômeuses, comme il aurait pu dire assemblée de RSistes, travailleurs et travailleuses précaires, auto-entrepreneurs, auto-entrepreneuses, intérimaires ou n'importe quelle autre forme de travail. Car nous sommes toutes et tous contraints et forcés de vendre notre force de travail, que cela se fasse de manière indéterminée ou temporaire, exploitée par un autre ou auto-exploitée. Si nous travaillons, ce n'est pas par habitude, rarement par plaisir, mais bien par nécessité. Nous aliénons notre temps, nous perdons notre énergie, puisque le rapport salarial est la condition première de notre survie. Le chômage est pour certains d'entre nous une pause entre deux contrats de travail, un instant pour reprendre le contrôle de nos vies, un moment permettant de mener une vie autre. Dans cette perspective, la coopérative revendique une réappropriation collective du chômage. Et dans cette assemblée, la contradiction entre la nécessité du travail en régime capitaliste et la volonté de ne pas s'y soumettre est assumée. Par conséquent, est aussi assumée l'ambiguïté vécue d'un tel état entre injonction sociale à retrouver un turbin, nécessité de survivre et plaisir d'avoir du temps pour soi. Nous savons que mal vivre son chôme dû, le passer sur Netflix tout seul est bien malheureusement la règle. Ne pas être au travail alors que tout nous y pousse, alors que la société nous définit à travers notre place dans le système de production, peuvent nous empêcher de vivre pleinement les périodes au chômage. Le chômage subit, la difficulté à joindre les deux bouts, l'angoisse matérielle et l'envers du décor de notre société dite d'abondance. La coopérative des chômeurs et chômeuses souhaite donc collectivement rompre avec l'isolement et prendre en charge les besoins matériels en proposant des moments de rencontre pour échanger sur des pratiques, des astuces afin de produire effectivement du commun et de l'entraide matérielle. Pour que le chômage soit enfin perçu pour ce qu'il peut être, à savoir un geste politique, il s'agit de ne plus produire et reproduire le capitalisme et d'inventer des nouvelles formes de vie. Et si vous voulez en discuter et rencontrer la coopérative des chômeurs et chômeuses, rendez-vous donc tous les lundis à partir de 11h au DOC. C'est au 26 rue du Docteur Potin, métro Télégraphe. En ce moment, le collectif féministe et queer de Paris 8 organise un rassemblement de soutien aux agents et agentes de nettoyage en grève depuis lundi dernier sur le site de Tolbiac. Depuis lundi dernier, en effet, les agents et agentes d'entretien du centre Tolbiac de l'Université Paris 1 sont en grève reconductible contre la maltraitance qu'ils subissent de la part d'Arc-en-Ciel. Harcèlement puis licenciement de la chef de site, absence de contrat, non-paiement des heures supplémentaires et complémentaires, voilà le quotidien de ces travailleurs et travailleuses essentiels au fonctionnement de l'université depuis plusieurs mois. L'université est loin d'être étrangère à cette politique. En 2021, le contrat qu'elle a signé comme donneur d'ordre demandait une réduction des effectifs. En vain, les travailleurs et travailleuses ont alerté de leurs conditions de travail, mais se sont vus répondre que ça n'était pas le problème de la présidence. Depuis lundi, celle-ci demande un service minimum pour casser la grève et tente d'empêcher les grévistes de tenir un piquet dans le hall de l'établissement. Alors les agents et agentes d'entretien revendiquent une réduction de leur charge de travail, notamment par de nouvelles embauches, la CDIsation de tous les CDD et l'internalisation à l'université des activités de nettoyage, une augmentation des qualifications et des rémunérations et le paiement des salaires le 7 du mois sans retard, la mise en place d'un 13e mois, le versement de la prime de décapage pour toutes et tous, la réintégration de la chef de site qui a été licenciée abusivement et l'arrêt des mutations abusives. Au-delà de Tolbiac, cette grève est importante car c'est celle de travailleurs et de travailleuses précaires et racisés qui relèvent la tête face à l'impunité patronale et montrent la voie à suivre pour mettre fin à la maltraitance et à la sous-traitance. Et pour les soutenir, le collectif féministe et queer de Paris 8 organise donc un rassemblement de soutien en ce moment et c'est devant le centre Pierre Mendès France au 90 rue de Tolbiac, métro Olympiade.
En ce moment également, Sud-Poste Hauts-de-Seine et l'UNEF Nanterre organisent un rassemblement de soutien à Gaël qui rentre contre la criminalisation des grévistes. Au cours de la grève des 15 mois menée par les postiers et postières du 92 en 2018 et 2019, en outre calomnie, des cadres de la Poste ont accusé Gaël Quirante de violence et de vol d'un portable professionnel et en décembre 2019, il a été condamné en première instance à 3 mois de prison avec sursis. La Poste est spécialiste des coups montés de l'acharnement sur les syndicalistes combatifs. À l'heure où on voit partout fleurir des grèves victorieuses pour les salaires, la Poste, avec ses salaires pourris, ne peut pas voir le conflit s'étendre chez elle. Elle veut couper des têtes et ne s'embrasse pas la vérité. La grève de 2018 et 2019 dans le 92 a gagné le droit pour Gaël de continuer à représenter ses collègues et intervenir dans les bureaux de poste malgré son licenciement. Mais la Poste veut reprendre sur le terrain judiciaire ce qu'elle a perdu sur le terrain de la grève. Elle n'a plus de sanctions disciplinaires à sa disposition, donc elle multiplie les procès. En parallèle, les recours pour obtenir la réintégration formelle de Gaël qui rentre, la Poste se poursuit et après avoir été chômeur pendant 2 ans, Gaël est maintenant rémunéré par la solidarité collective via une caisse de collecte qui a permis jusqu'ici de lui assurer un salaire de postier au grade de base avec 15 ans d'ancienneté. Pour le soutenir, alors qu'il passe en ce moment en audience d'appel pour faire tomber ses 3 mois de prison avec sursis, un rassemblement est donc organisé devant la cour d'appel de Versailles au 5 rue Carnot à Versailles. Et si vous voulez le soutenir en participant à la caisse de solidarité, vous retrouverez tous les liens sur le site de l'agenda.
De 13h à 17h, le syndicat Sud Commerce et Services franciliens solidaires ouvre sa permanence juridique hebdomadaire pour aider les travailleuses et travailleurs à faire face aux problèmes qu'ils rencontrent sur leur lieu de travail. Et si vous voulez vous rendre à la permanence, c'est ouvert de 13h à 17h au 7 rue Vic d'Azyr et c'est au métro Colonel Fabien.
Et de 14h à 17h, c'est la permanence syndicale de la CNT Région Parisienne qui sera ouverte. Et si vous voulez vous y rendre, c'est ouvert de 14h à 17h au 33 rue des Vignoles, métro Avron ou Buzenval.
De 15h à 17h30, la Recyclerie propose son atelier de conversation avec l'association française Langue d'Accueil, une association qui a pour objet d'organiser des ateliers d'apprentissage du français pour les demandeurs d'asile et les réfugiés récents dans les quartiers, notamment autour de Gare du Nord et de l'Est. Et si vous voulez participer à cet atelier, rendez-vous à 15h30 à la Recyclerie, c'est au 83 boulevard d'Ornano, métro Porte de Clignancourt.
Et de 18h à 19h, et de 19h à 20h, le collectif Dionysien, un ring pour toutes et pour tous, qui propose depuis 2017 des entraînements de boxe anglaise entre femmes et personnes trans pour lutter contre les stéréotypes de genre, poursuit ses courses pour enfants, ados et adultes. Et si vous vouliez participer, rendez-vous de 18h à 19h pour les enfants ados, et à 19h pour les adultes. Les cours ont lieu au chapiteau Ragnawak, qui se trouve aux 3 rues Ferdinand Gabon à Saint-Denis, c'est juste en face de la gare.
De 19h à 20h, Extinction Rébellion Paris Nord organise une réunion d'accueil des nouvelles militantes et nouveaux militants. Et si vous voulez rencontrer des militants et militantes d'Extinction Rébellion Paris Nord et éventuellement les rejoindre, rendez-vous à 19h à l'espace Villette Marquez, c'est au 211 avenue Jean Jaurès, métro Porte de Pantin. À 19h encore, les Gilets jaunes de Belleville poursuivent leur assemblée générale hebdomadaire pour discuter de l'actualité politique et sociale et organiser les luttes. Et si vous voulez participer, c'est à 19h au café Le Côte d'Azur qui se trouve au 6 rue du Château d'Eau, métro Jacques Bonsergent.
Et de 19h30 à 21h, l'association Autre Monde tient sa permanence administrative hebdomadaire. Cette permanence assure l'ouverture de certains droits, PUMA, CSS, AME ou encore Solidarité Transport. Et si vous voulez savoir les documents nécessaires à l'ouverture de ces droits, vous devez contacter en amont le 01 43 14 77 80. Je répète, 01 43 14 77 80. Et pour vous y rendre à la permanence, sans rendez-vous, c'est ouvert de 19h30 à 21h30 au Dorothy qui se trouve au 85 bis rue de Ménilmontant, métro Ménilmontant. À 20h, l'association Bicause propose sa bicoserie hebdomadaire avec cette semaine d'une discussion avec l'association Outrance pour affirmer nos droits contre les violences faites aux femmes. 6 Outrance la campagne transphobe. Thank you. Dans cette discussion, il s'agira notamment de faire le lien avec les menées exclutantes qui rejettent les personnes trans, notamment les femmes, les mobilisations en perspective les 19 et 20 novembre, respectivement la marche contre les violences sexistes et sexuelles et la marche prévue avec le rassemblement et moments de mémoire pour la Journée internationale du souvenir trans et la permanence de ce combat en outre en relation avec les institutions. Et si vous voulez participer avec cette discussion avec l'association Bicause et l'association Outrans, rendez-vous à 20h au centre LGBT+, Paris IDF, c'est au 63 rue Beaubourg, métro Rambuteau.
Enfin, à partir de demain matin et jusqu'au 17 novembre, l'association Ancrage et l'Institut Convergence Migration proposent une formation 3 APA sur le logement et les usages de la ville destinée aux professionnels de l'accueil et de l'accompagnement des primo-arrivants. Au programme de cette formation, il y aura un focus sur ce que fait l'exilé à l'espace et ce que fait l'espace à l'exilé avec Stéphanie Dadour, maîtresse de conférences en sciences humaines et sociales à l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais. Une présentation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés, moyens et contraintes des professionnels en charge de l'accueil et de l'accompagnement avec Bénédicte Larnaudy, directrice du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Brou-sur-Charentaine, en Seine-et-Marne, et une sensibilisation aux migrations et compétences des collectivités, l'accueil des personnes exilées dans les territoires avec Nicolas Mazard, chargé de projet Odyssée et formation à l'ANVITA, c'est l'Association nationale des villes et territoires accueillants. Et si vous voulez consulter le programme complet, rendez-vous sur le lien que vous trouverez sur le site de l'agenda avec le lien pour vous inscrire. Et la formation débute donc demain matin et jusqu'au 17 novembre de 9h à 17h30. Et c'est sur le campus d'Orsay, dans la salle 305 du centre des colloques à Aubervilliers, métro Front Populaire. Et on est donc au téléphone avec Bartine Nassera du collectif de défense des ludothèques pour parler de la fermeture programmée des ludothèques à Saint-Denis. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci de nous appeler.
Oui, je vous écoute.
Oui, alors je le disais, la mairie de Saint-Denis envisage donc de fermer 3 ludothèques sur les 8 que compte la ville. Alors une est gérée par l'association Les Enfants du Jeu qui est située sur le quartier Framoisin. Et cette fermeture annoncée intervient d'après la mairie de Saint-Denis pour faire face à l'explosion des coûts de l'énergie. Alors peut-être d'abord, est-ce que tu veux bien préciser ce que c'est une ludothèque et du coup revenir sur les problèmes posés par une éventuelle fermeture, notamment en termes de lien social ?
Alors une ludothèque, c'est pas du tout une médiathèque, c'est constitué de jeux de société, de jeux de construction, de la dinette. Et c'est surtout un lieu de convivialité. Ça nous permet, à nous, les citoyens de Saint-Denis, de nous poser, de rencontrer d'autres parents, de personnes âgées, d'assistantes maternelles. Moi-même, je suis assistante maternelle depuis 13 ans sur Saint-Denis. Mmh. Et puis, voilà, donc oui, effectivement, on ne comprend pas cette fermeture parce qu'on n'a même pas été concerté. Il n'y a rien qui a laissé penser qu'ils envisageaient de fermer. Ensuite, on nous parle de coûts énergétiques. Je veux bien, mais moi, j'aimerais bien avoir des chiffres sur la patinoire qui a coûté l'année dernière et je ne sais pas si cette année, elle va être maintenue ou pas. Donc, on ne peut pas sacrifier une jeunesse en parlant de coûts énergétiques. Ce n'est pas possible.
Alors, comment cette annonce de fermeture programmée, elle a été formulée ? Il n'y avait pas eu de consultation, mais je crois qu'il y a eu pas mal de couacs, notamment sur les ludothèques concernées par la fermeture.
On l'a su parce qu'il y avait une réunion avec les employés des ludothèques. Donc, le jeudi, le vendredi, forcément, il y a eu un bruit de couloir qui a ébruité. Et puis, nous, les citoyens de Saint-Denis, nous avons mis en place une pétition en ligne et une pétition papier qui, aujourd'hui, est à plus de 2500 signatures, ce qui est quand même énorme. Donc, on a mis ça en place. Ensuite, le samedi d'après, on a fait une manifestation devant la mairie avec plus de 200 personnes d'usagers, aussi bien des parents que des personnes âgées, que, comme je disais, des assistantes maternelles. C'est un collectif de tout confondu avec la population de Saint-Denis. Et néanmoins, en plus, il y a eu aussi des gens qui avaient voté M. Hanotin, qui ont été complètement révoltés en se disant non, ce qu'il proposait dans son programme est complètement contradictoire.
Est-ce que vous avez pu en discuter avec les services de la municipalité ou pas du tout? Vous n'avez pas été reçu?
Pas du tout, justement. Ce soir, je vais me rendre à une réunion qui compte faire dans les quartiers. Nous avons, avec le collectif, envoyé plusieurs mails pour demander une délégation. À ce jour, il n'y a toujours pas de réponse ni positive ni négative. En sachant que le 24 novembre, il y a le conseil municipal, c'est pareil, nous avons demandé à y participer. Donc non, il reste muet à notre appel. Donc c'est encore plus décevant pour nous. C'est qu'aujourd'hui, on est quand même des citoyens. Et parmi tous ces citoyens qui se manifestent, il y a beaucoup de gens qui avaient voté M. Hanotin. Donc nous ne comprenons pas. On ne comprend pas. Donc on aimerait avoir une explication. Donc effectivement, il parle de... Alors c'est un peu contradictoire, parce que quand vous prenez les journaux, ils vous parlent de... Alors un coût énergétique, un coût on vous parle de fusionner deux ludothèques en même temps. Il n'y a pas de problème de fusionner deux ludothèques, mais on ne ferme pas un lieu aujourd'hui où cette jeunesse va être complètement perdue, parce que dans les quartiers nord de Saint-Denis, surtout celle de Pierre-Sémar, il n'y a rien aux alentours. Et en plus, cette ludothèque, elle est maintenue dans une maison de quartier. Donc, ça veut dire que cette maison de quartier ne va pas être chauffée non plus. Donc, vous voyez, c'est un peu contradictoire. Et M. Hanotin, dans son programme, quand il était en campagne, et moi, il est quand même rentré chez moi face à mes enfants à l'époque qui étaient des adultes, qui sont toujours des adultes, du moins. Ma priorité est la jeunesse. Non, M. Hanotin, votre priorité n'est pas la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, cette jeunesse, qu'est-ce qu'elle devient dans des quartiers populaires? Qu'est-ce qu'on devient? Ok, il veut fusionner, il n'y a pas de problème. Mais on cherche d'abord un lieu où vous voulez fusionner et ensuite on ferme. Parce que d'ici là, ne me dites pas que d'ici demain, une ludothèque va sortir de terre.
Alors, là, je crois il parle de. Il y a eu un projet de bus, non?
Début 2023.
Il y a eu un projet de bus qui a été évoqué, non? C'est pas ça?
Oui, mais madame, un projet de bus. Moi, j'ai connu aussi les bus bibliothèques. Ok, c'est bien, on va aller chercher des jeux, mais imaginez-vous un instant, une maman avec deux ou trois enfants, est-ce qu'elle va pouvoir se poser dans ce bus, échanger avec d'autres parents? Allez, peut-être qu'ils vont être deux parents, les enfants vont pouvoir, vous avez des enfants qui vont à quatre pattes, les enfants vont pouvoir aller à quatre pattes dans le bibliobus?
Non, mais c'était pour dire qu'il a lancé plein de projets, et en fait, on n'en sait pas grand-chose, quoi. Enfin, on ne sait pas exactement les ludothèques qui sont visées, on ne sait pas.
On a demandé justement de le rencontrer, qu'on nous explique. On est quand même des citoyens de Saint-Denis. Moi, j'y suis depuis 1980. J'ai deux enfants adultes, une fille qui a 35 ans et mon fils qui a 31 ans, qui ont grandi à Saint-Denis, qui ont fait des grandes études, qui ont des postes de responsabilité. Mais grâce à ces lieux, madame, grâce à ces lieux, ça leur a permis d'aller se poser dans ces lieux et non de rester dans la cité, à traîner dans les parcs. Et on sait très bien ce qui s'y passe. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, comment qu'on peut fermer? Alors, on se plaint que Saint-Denis, oui, c'est des quartiers pas très bien fréquentés, mais si on ferme ces lieux?
D'autant qu'il y a pas mal d'associations aussi qui sont fermées, là, en ce moment, à Saint-Denis.
Exactement, il a fermé une maison de jeunesse, un espace jeunesse en centre-ville. Comment qu'on peut fermer des centres? C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, tout à fait.
En plus, une maison de jeunesse, la plupart, c'est des ados. C'est des ados. Donc, qu'est-ce que vont devenir ces ados aussi? Et la ludothèque, encore une fois, comme je vous disais, moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de travailler parce que, justement, en ayant des échanges, ils se sont aperçus que j'étais assistante maternelle et avec qui j'ai pu créer, avoir des contrats de travail. Et moi, j'ai des petits Parisiens, comme si bien dire M. Hanotin, qui veut attirer. Moi, j'ai des parents, c'est des gens qui viennent de Paris, qui ont acheté à Saint-Denis, qui ont voté M. Hanotin. Aujourd'hui, ils sont révoltés parce qu'ils nous disent « Non, ça ne rentre pas dans ton programme qu'il nous a proposé. » Vous comprenez?
Alors, pour protester, tu l'as dit, donc il y a un collectif de parents d'élèves, d'assistantes maternelles et d'habitants qui s'est constitué.
De tout. Donc là... on est vraiment, oui, alors mercredi dernier on a encore eu une réunion, là le 19 on va encore faire une manifestation, vous voyez,
okay.
Parce qu'on compte pas, on veut pas en rester là, c'est pas possible, on peut pas dire un coup c'est un coup énergétique, un coup on veut fusionner, Il faut savoir sur quel pied danser. Vous voulez fusionner, vous voulez faire un coup énergétique. Et un coup énergétique, excusez-moi, un coup énergétique, vous sacrifiez cette jeunesse. Sur un coup électrique, on peut faire des économies sur autre chose.
Alors, je suis désolée, l'heure tourne. En fait, il va falloir qu'on arrête l'interview. En tout cas, tu l'as dit, donc il y a une pétition qui a été lancée et vous retrouverez le lien sur le site de l'agenda. Il y a un rendez-vous donc le 19, c'est ça?
Exactement.
Ok,
exactement.
Eh ben, on le relaiera dans l'agenda, bien sûr. Ben, merci d'avoir appelé.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Et pour la pause musicale, on va écouter un titre de l'album Le droit au bruit de l'inconsolable et T2 qui est dispo depuis hier sur les plateformes en ligne. On écoute Le droit au bruit.
L'État opprime, ceux qui paient le tarot le prix, forment toutes vos saloperies de ce que les possédants s'approprient, qui ont rien de ce qu'on leur a promis et voient bien qu'on les a omis. Pour ceux que ces saloperies de se taire, je réclame le droit au bruit. Accusés pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, abusés, flou et crime derrière des barres au prix, n'auront que mépris et moqueries comme s'ils n'entendaient pas nos cris. Contre ceux qui font la sourde oreille, je réclame le droit au bruit. Face au bruit ambiant, des marteaux piqueurs et des voitures, le silence est pesant et traduit les bruits qu'ils capturent. Entendre le chant d'un oiseau ici est parfois dur sous la cacophonie de nos vides, silence des cris de la nature et de la faunie les opprime et frappe au prix même de pouvoir exprimer le problème des besoins auxquels ils ne peuvent pas pourvoir. Réduits au silence par les nuisances sonores du pouvoir et de ses instances immenses, pour se faire entendre faut foutre le foutoir comme dans le temps en 2005 et avant en 68. Y'a quand ça part en vrille que leurs problèmes douilles s'arrangent vite. Sans ça, pas de voix au chapitre, on classe nos plaintes sans suite, on répète sans cesse les mêmes choses et il se passe rien ensuite. Nos cris de détresse sont précaires, espèrent air dans le désert. On entend que les possédants leurs médias et leurs experts, on espère se défaire, défaire qu'ils nous les guerrent, requièrent le droit de faire du bruit pour tous ceux qu'ils voudraient faire taire. Pour tous ceux que l'État opprime, ceux qui paient le tarot le prix, forment toutes vos saloperies de ce que les possédants s'approprient, qui ont rien de ce qu'on leur a promis et voient bien qu'on les a omis. Pour ceux que ces saloperies de se taire, je réclame le droit au bruit. Accusés pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, abusés, flous et crimes derrière des barres au prix, n'auront que mépris et moqueries comme s'ils n'entendaient pas nos cris.
Et on reprend avec les rendez-vous culturels. De 12h30 à 14h30, l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient organise une rencontre autour de l'historien et journaliste Dominique Vidal et de son livre « Israël, naissance d'un État, 1896-1949 », paru chez L'Harmattan. Et si vous voulez en discuter avec l'historien et journaliste Dominique Vidal, rendez-vous de 12h30 à 14h30 dans les locaux de l'IREMO. C'est au 7 rue des Carmes, métro Maubert Mutualité. De 13h30 à 17h30, le Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris organise une table ronde sur le football, quels enjeux pour le monde arabe. Et si vous voulez y participer, rendez-vous de 13h30 à 17h30 dans les locaux du CAREP, c'est au 12 rue Raymond Aron, métro Quai de la Gare, ou en visio via le lien Zoom que vous retrouvez sur le site de l'agenda.
Et à 15h, le pôle culturel du centre LGBT+, à Paris, Île-de-France, propose le finissage de l'expo collective proposée pour l'ouverture de nouveaux locaux et des associations Gay Pride et Basiliade. Et si vous voulez participer au finissage de l'exposition, rendez-vous à 15h au 227 rue Saint-Denis, au métro Réaumur, Sébastopol.
À 19h, la recyclerie organise une table ronde intitulée « Depuis l'invasion de l'Ukraine, sommes-nous entrés dans la guerre verte ?» Et si vous voulez en discuter avec Ramona Bloge, rédactrice en chef de la revue Green, Alessandra Giannini, directrice du Centre de formation sur l'environnement et la société de l'École normale supérieure, et Adrien Estève du Centre de recherche internationale et auteur de « Guerre et écologie », eh bien rendez-vous à 19h à la recyclerie, c'est au 83 boulevard d'Ornano, métro Porte de Clignancourt.
Et à l'occasion de la sortie du numéro 8 de la revue de La Déferlante et de son dossier joué « Quand les féministes bousculent les règles », l'équipe de la revue organise une discussion en ligne intitulée « Tu joues comme une fille », 10 ans de débat sur la place des femmes dans les jeux vidéo. Et si vous voulez en discuter avec Jennifer Lufo, présidente de l'association Afro-Gameuse, et Marion Covey, chercheuse en sciences de l'information qui s'est intéressée à la question du genre dans les jeux vidéo, Rendez-vous à partir de 19h30 sur le lien que vous retrouverez sur le site de l'agenda.
Voilà, l'agenda, c'est fini. Merci à Manon et à Charles-Elisabeth pour la technique. Pour retrouver toutes les infos, adresses et liens internet ou pour écouter en podcast l'agenda du jour ou le télécharger, rendez-vous sur le site de l'agenda sur rfpp.net. Tout de suite, c'est l'actualité des luttes et on se retrouve demain même heure pour un nouvel agenda. D'ici là, bonne écoute sur FPP.